plaisir des Utopies, l'émission radio de la plateforme polyamour.be, réalisée et présentée par Polyphile. C'est ici que l'idée polyamoureuse nourrit son imaginaire, c'est ici qu'elle s'offre aux rencontres métissées. À l'ombre du jour, le micro entre les dents, le cœur nomade, je parcours les berges à la recherche des polyglottes de l'amour. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur Radio Campus 92.1 MHz, et c'est un plaisir de vous retrouver chaque mois sur les ondes FM bruxelloises. Attention, changement de l'heure de diffusion. À partir de ce mois de décembre, Polyplaisir des Utopies est diffusé le deuxième mercredi de chaque mois à 21h30 et rediffusé le quatrième jeudi du mois à 16h. Autre bonne nouvelle et autre changement dans nos habitudes, après une demi-année de rendez-vous Polycafé à la Maison Arc-en-Ciel le vendredi, ce sera bientôt le premier mercredi de chaque mois que nous nous rassemblerons le temps d'une soirée en ce haut lieu de rencontre qui réunit toutes les minorités sexuelles à deux pas de la Grand Place, rue du Marché au Charbon 42 à 19h. En effet, la Maison Arc-en-Ciel ou la Rainbow House est une ASBL qui abrite différentes associations francophones et néerlandophones, lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, cuir, intersexes et bientôt polyamoureuses. Une trentaine d'associations s'y retrouvent et organisent de nombreuses activités socioculturelles. C'est aussi un lieu ouvert à tous, on s'y sent bien, et vous êtes plusieurs à me reparler de la formule auberge espagnole, qui avait bien plu cet été. J'y réfléchis et je peux vous annoncer presque officiellement que dans quelques semaines, nous aurons certainement une reconnaissance officielle comme mouvement polyamoureux au sein de cette ASBL. Cela nous permettra de gérer notre soirée en créant par exemple l'ambiance de notre choix, en tenant le bar, en choisissant notre musique, et donc des soirées dansantes, pourquoi pas, en partageant un repas, en proposant des projections, et pourquoi pas aussi réaliser nos émissions radio. Plein de belles choses donc à réaliser ensemble. Mais tout ça c'est pour le mois de mars au plus tôt. D'ici là, je vous propose un café poli ce mercredi 15 décembre à 19h, afin notamment de tester la formule du mercredi. Mais il est temps maintenant de retrouver Marie-Paul et Patricia pour la suite de l'émission du mois dernier qui s'intitulait « Donner de l'importance à ses amours ». Ce fut l'occasion pour Patricia de nous présenter Christine. C'est au tour de Marie-Paul, cette fois, autre partenaire de Patricia, de prendre la parole et de nous expliquer comment lui est venue l'envie de vivre plusieurs relations amoureuses en même temps.
L'idée de sortir avec deux filles différentes m'est parvenue comme ça par hasard, en fait. Mm-hmm. J'ai eu des relations c'est très sérieuses et tout. Et c'est soldé chaque fois par un échec. Et j'ai un petit peu un cœur comme un artichaut. Donc, aimer deux femmes, je trouve ça mieux, mm-hmm. plus agréable, mais pas vivre avec. Ça, c'est important aussi, que je reste mon intimité, ma petite maison à moi, parce qu'elles peuvent venir sans problème dormir chez moi, mais pas pour vivre. Je ne suis pas fait pour vivre avec quelqu'un, enfin, en tout cas pas pour l'instant.
Et Patricia, qui avait déjà témoigné aussi l'autre jour, tu parlais aussi, je pense, d'une certaine autonomie que tu aimais avoir. Et donc, c'est grâce à ce système de fonctionnement que vous arrivez à vivre sur le long terme, c'est ça, une relation ?
Oui, tout à fait. C'est beaucoup plus agréable la façon qu'on vit. On se voit quand on se veut. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. Donc, je trouve ça vraiment une vie beaucoup plus réelle, en fait.
Et donc, quand tu dis que tu es en relation avec deux personnes en même temps, c'est peut-être là qu'on est dans le polyamour, hein, donc dans la définition du partage des amours. Et comment ça s'est fait au niveau de l'histoire ? Tu as d'abord eu une relation avec qui, en fait, au départ ?
Au départ, c'était avec Mélanie. Donc, elle a 26 ans. Enfin, maintenant, elle va avoir 25 ans, 26 ans. Et donc, elle, ça fait déjà 4 ans que je suis avec, mais bon... Tout se passe bien, mais je voulais absolument avoir quelqu'un d'autre. Parce que bon, elle est plus jeune, donc moi j'aime bien aussi faire des choses tout à fait différentes. Donc je voulais trouver une personne qui aimait bien aussi faire visiter des musées, des choses un petit peu plus sophistiquées, des choses comme ça. Et donc je me suis mise à la recherche donc, de quelqu'un. Et c'est vraiment par hasard, en regardant une annonce dans le Vlan, qui m'a interpellée, je ne sais pas exactement pourquoi, et j'ai répondu, je lui ai bien dit que j'étais plus jeune, et que bon, si ça l'intéressait, elle avait qu'à me retéléphoner ou me recontacter, et puis c'est ce qui s'est passé, et puis moi j'ai d'abord craqué pour sa voix, ça c'était assez marrant, et puis on s'est vus, donc au Kinépolis, et Quelques jours après, on s'est revus chez moi. Et puis voilà, depuis maintenant, ça va faire un an et demi. Un an et demi déjà qu'on se connaît, voilà.
Et donc, par rapport à tes sentiments pour Patricia et l'autre personne, c'est
Mélanie.
Mélanie, tu sens qu'il y a vraiment un équilibre en toi à ce niveau-là.
Ah oui, tout à fait, c'est un équilibre, tout à fait, oui. Ah oui, c'est vraiment étrange de ressentir ça, mais c'est vraiment un équilibre. C'est comme si c'était le blanc et le noir. C'est vraiment tout à fait c'est mon équilibre. Si j'avais pas ces deux-là, c'est comme si j'aurais plus moyen de marcher, quoi. Ça, c'est sûr.
Et est-ce qu'une relation nourrit l'autre?
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. C'est ce qui est chouette aussi, c'est que bon, les deux relations sont tout à fait différentes et c'est ça qui est enrichissant en fait.
Et donc dans les croisements des amours pluriels, est-ce que c'est des personnes qui se sont déjà rencontrées ou est-ce que tu ne trouves que c'est pas utile ou comment ça se passe à ce niveau-là?
Non, ils ne doivent pas se connaître, pas spécialement. Il y en a quand même une qui est beaucoup plus jalouse que l'autre, donc c'est peut-être pas nécessaire de faire monter la colère de l'une ou de l'autre, ça sert à rien.
Est-ce que tu as déjà eu des moments où tu sentais que les gens te comprenaient moins bien ou avaient tendance à porter un jugement ou tu as l'impression plutôt que ça ils comprennent à force que tu expliques un peu?
Oui, il faut vraiment expliquer parce qu'il y a des gens qui se disent, mais écoute, il faut que tu aies une personne, tu peux pas aimer deux personnes, c'est pas possible. Notre société est faite pour aimer une personne, c'est déjà dur que tu es homosexuel. Oui, j'ai eu des réflexions comme ça, mais bon, moi je suis très bien dans mes chaussures, je sais très bien pourquoi je vis ces deux expériences, et c'est bénéfique, j'essaye d'expliquer, mais bon, il y a toujours des gens qui comprennent pas. Hein, ce sont vraiment des hétéros durs, ils ne comprennent pas. À mon avis, parce qu'ils osent pas peut-être le vivre aussi. Ils voudraient peut-être bien, mais n'osent pas.
Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce déclic chez toi de te dire, bon, ben, si je tentais cette façon d'aimer au pluriel, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur?
Ben, j'ai eu une grosse dépression assez très très importante qui m'a rendue dans le noir total. Et pour m'en sortir, je devais faire une nouvelle expérience, je devais trouver quelque chose, un équilibre justement à mon mental et à mon physique et à mon bien-être. C'était très dur à trouver et quand j'ai réagi, que j'ai enfin trouvé quelque chose qui pouvait me remettre sur le bon chemin, c'était clair et net, je devais avoir deux personnes.
Et si tu devais faire un petit message comme ça aux gens qui nous écoutent et qui sont peut-être justement tentés et qui hésitent un petit peu, qu'est-ce que tu dirais?
Je dirais tenter l'expérience, arrêter de réfléchir et essayer de vivre avec votre cœur. Et là, vous serez heureux, quoi. Si vous voulez pas retomber dans le quotidien comme des petits moutons, tout le monde aime une personne, tout le monde fait ce qu'on dit, tout le monde fait ce qu'on. Allez, tout le monde doit travailler, tout faire ça, vous serez jamais heureux.
Eh bien, je me tourne vers Patricia et je reviendrai à toi après. Ben parce qu'il y a quelque temps, ben Patricia, tu étais ici avec une autre personne,
Oui,
qui s'appelait Christine.
Christine, oui.
Et donc, il y avait aussi un bel échange d'ouverture comme ça. Et aujourd'hui, tu as accompagné Marie-Paul. En venant ici, quel était ton sentiment? Est-ce que tu étais dans ce projet de dire, voilà, il y a une envie de témoignage comme ça chez toi de votre histoire?
Oui, un petit peu une envie de notre histoire, parce que c'est celle que je vis en ce moment, et de toute manière, de toute l'histoire, enfin, de toute l'histoire que je vis depuis toujours. Enfin, depuis toujours, c'est peut-être un peu ambitieux à dire, mais je veux dire. Moi, j'étais une jeune fille qui lisait énormément. Alors, en lisant, je voyais des histoires comme celle de Simone de Beauvoir qui avait plusieurs amants et amantes aussi. Enfin, ça s'est su plus tard et d'autres personnes comme ça. Mais tout cela, je le lisais dans les livres, mais en réalité, ça se faisait sans que je le veuille. Je veux dire, c'est pas que je trouvais des modèles là-dedans, mais il se trouve que même quand j'étais toute jeune fille et que j'étais au lycée, que je n'étais encore que avec les hommes pour la raison extrêmement banale que ce sont les hommes qui vous harcèle quand vous avez 13-14 ans, et donc je vais dire, oh, je vais commencer par là comme tout le monde. Même là, j'étais incapable d'avoir un garçon à la fois, c'était toujours deux. Et je faisais pas exprès, c'était comme ça que ça se passait. C'est vraiment pas la même chose, et c'est ça qui est drôle parce que quand on est bisexuel, comme ça a été mon cas pendant très longtemps, on pense toujours qu'on voit d'un côté les hommes, de l'autre les femmes, et que c'est ça la différence. Mais pas du tout. C'est vraiment à l'intérieur du même genre, du même sexe, qu'on arrive à trouver des différences énormes. Je veux dire, les garçons avec qui je m'embrassais dans les coins du lycée ou des choses comme ça, étaient déjà différents entre eux. Je veux dire, c'était sûr que je ne me serais pas amusée à faire deux fois la même chose. Je veux dire, c'est vraiment la variété des expériences qu'on a avec les personnes qui m'a toujours intéressée. Et puis, je ne sais pas, moi aussi, ça a été dès le début un refus total du mariage et de la routine, de cette chose-là. Je veux dire, j'aurais été hétérosexuelle, ça aurait rien changé. J'aurais absolument pas voulu me marier, ni avoir des enfants. Ça m'appartient, hein. Mais je veux dire, il se trouve que je trouve que c'est trop compliqué d'avoir des enfants et de faire aussi autre chose dans sa vie. C'est vraiment extrêmement difficile, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. C'est encore pire pour les femmes, évidemment. Et puis, j'avais aucune envie d'être enceinte. Donc, bon, ça, je répète, même si j'avais été hétérosexuelle, je crois que ça aurait été encore plus difficile à faire admettre. Parce que je sais que pour les femmes, là, je change un peu du thème. Je parle plutôt du non-désir d'enfant. Mais je sais que pour une femme qui arrive autour de la trentaine, si elle ne dit pas ouvertement qu'elle est lesbienne, on va certainement lui poser la question. Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Donc, il y en a pour qui, finalement, on se fait embêter parce qu'on est lesbienne, à la limite, mais on ne se fait pas embêter parce qu'on n'a pas d'enfant. Alors que, ça, c'est vrai, moi j'ai bien remarqué, les seules qui ne se font pas embêter, c'est ça. Ce sont les femmes qui déclarent ouvertement être lesbiennes, et il n'y en a pas tant que ça non plus. Hein. C'est pas 100% des lesbiennes qui le disent. Donc pour moi, ça a toujours été ça, une espèce d'envie de... Enfin, même pas une envie, mais un besoin de ne pas vivre comme tout le monde, parce que c'était impossible, parce que je m'y serais étouffée, je me serais étiolée. Je voulais voyager aussi quand j'étais plus jeune, je voulais faire connaître vraiment d'autres pays, d'autres choses. Bon, là, je me suis un peu calmée parce que j'ai 52 ans maintenant, donc c'est bon, je veux dire, mais je l'ai beaucoup fait. Et le seul problème, c'est, en général, c'est vraiment la jalousie des autres, c'est ça. Le vrai problème, c'est comment faire quand on aime quelqu'un et que l'autre n'arrive pas à accepter. Moi, je me suis trouvée dans cette situation-là, avec un homme qui était, avec lequel je suis restée quand même un très long moment, et qui n'était pas du tout prêt à admettre ma façon de vivre. Alors là, j'étais vraiment mise dans un... Parce que moi, j'ai commencé tout à fait naïvement, j'ai commencé en ayant des aventures, et puis je me suis rendu compte que ça le mettait dans un état épouvantable. Je veux dire que pour lui, c'était une souffrance... que je n'imaginais même pas, moi. N'étant pas jalouse, je ne pouvais pas imaginer une telle souffrance. Et quand j'ai vu ça, pendant des années, je me suis habituée à mentir. Il n'y avait pas d'autre solution. C'est-à-dire, soit je le quittais, soit je changeais de mode de vie complètement. Étant incapable de faire les deux, je mentais. Donc, et ce n'est pas tenable à la longue. Je veux dire, ça a duré quelques années, mais au bout d'un moment, je n'en pouvais plus. Et en plus, j'ai découvert, au moment où on s'est quitté, que lui, il avait de son côté une autre relation avec une femme, mais qu'il me l'avait toujours cachée. Parce qu'évidemment, s'il me l'avait révélé, Et la sienne était autrement plus sérieuse que la mienne.
D'accord.
Parce que s'il ne me l'avait pas caché, j'aurais eu une bonne raison de revendiquer, de dire, bon, alors soit on vit ensemble à plusieurs, soit on se quitte. Je veux dire, je ne vois pas pourquoi je serais la seule à devoir se sacrifier, ça c'était quelque chose.
Comment elle a réagi à ce moment-là quand...
Ah, elle, apparemment, je n'ai jamais connu cette fille, mais apparemment, elle aurait voulu depuis longtemps se mettre avec... qu'on se quitte nous deux pour qu'elle puisse être seule avec lui. Elle était disposée à laisser son mari. C'était une fille mariée qui voulait bien laisser son mari pour faire ça. Et ce garçon, enfin, cet homme, parce qu'il a le même âge que moi, il a toujours refusé. Il préférait un semblant de couple, un semblant de monogamie à un réel polyamour, appelez-le comme vous voulez, à une possibilité ouverte à plusieurs partenaires. Et moi, je dis non, moi, je préfère ouvertement que ce soit comme ça. Enfin, je dis non. Je répète, je l'ai découvert après la fin de notre rapport. Mais pour dire que ça prouve bien qu'il y a quelque chose presque chez tout le monde, qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui vivent ça, la seule différence, c'est qu'ils ne le vivent pas ouvertement. C'est tout. Peut-être qu'ils aiment être cachés, je ne sais pas. Peut-être que... Moi, je trouve que c'est très compliqué, que pendant toute mon adolescence, j'ai dû mentir à mes parents. Alors après, j'en ai marre. Je veux dire, mentir aussi encore quand on est adulte.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Ça, c'est vraiment terrible.
Et au quotidien, comment ça se passe dans l'agenda pour voir un peu l'une et l'autre?
Au quotidien, je reprends ce que disait Marie-Paul, c'est que l'essentiel pour moi, je dis bien pour moi, ça a toujours été de ne pas cohabiter. Je sais qu'il y a d'autres gens qui arrivent à concilier plusieurs relations et une cohabitation. Moi, ce n'est pas possible parce que je ne cohabite avec personne. Je veux dire, même avec Christine, que vous avez déjà entendue. Ça fait 16 ans que nous sommes ensemble, et la seule période où nous cohabitons, c'est pendant les vacances. Évidemment, si on part en vacances quelque part, on ne va pas s'amuser à louer deux appartements. C'est pour dire que ça fait partie d'une manière de vivre. Moi, je vis avec moi-même, hein, essentiellement. J'ai besoin de ma solitude, absolument. Pas tout le temps, mais au moins quelques soirs par semaine, quelques journées par semaine. Et puis, je partage le reste de mes journées ou de mes semaines avec les deux personnes avec qui je vis. C'est pas très compliqué du moment que les choses sont claires. Hein. C'est sûr que si par contre je me mettais à vouloir cacher des choses, là ça deviendrait beaucoup plus compliqué. Mais à la mesure où on cache rien, je dis franchement non, écoute, j'ai envie d'être avec l'autre, ou alors non, il me faut absolument tant de temps avec l'autre. Je le dis, et puis ça passe pas, mais je me dis...
Si Barry Paul croise Christine, elles peuvent se dire bonjour, comment
oui,
ça va, et puis
tout à
voilà.
Fait, ça s'est fait d'ailleurs, hein, ouais, déjà, ça s'est fait, oui, ça s'est fait parce qu'il y avait des situations où toutes les deux souhaitaient être présentes, donc c'était plutôt des situations publiques, hein, je veux dire, on n'était pas toutes les trois, on était plusieurs personnes, dont les deux en question, et là, ça se passe très bien. Par contre, se voir à trois, ça n'a aucun intérêt, et je veux dire, c'est vraiment de la même manière que j'aime bien être avec d'autres amis à d'autres moments, femme, mais toujours à deux. Je trouve que c'est là qu'on approfondit le mieux les rapports. Quoi. Après, il y a autant de rapports que des personnes.
Il y a ces événements publics, il y a un croisement qui peut se faire de manière assez équilibrée, dans les regards, dans la façon d'être ensemble.
Oui, tout à fait. C'est pas très... Je répète, c'est vraiment bête. C'est très simple. Du moment que rien n'est caché, il n'y a pas de problème.
Il y a un respect. Il y a un respect surtout. Je respecte énormément la Christine, parce que bon, c'est sa première copine, ça fait très longtemps qu'elle est ensemble. Donc, c'était pas mon avis de poser des problèmes ou des choses comme ça. De toute façon, Christine, bon, moi j'avais envie de la rencontrer, ça c'est sûr. Bon, on parle ensemble, c'est déjà arrivé qu'on fasse une blague à Patricia, donc ça se passe très bien, très bien. Mais c'est vrai que. Il faut avoir confiance.
C'est ça.
C'est tout. Et surtout un profond respect. Il faut respecter.
Et le fait d'avoir rencontré Christine a quelque part rendu les choses plus concrètes. Simplement, tu vois qui c'est, l'autre personne, et du coup, ça circule mieux. Alors, en fait, peut-être dans la relation que tu as avec Patricia, tu comprends mieux ou ça a été concret pour toi de la rencontre.
Oui, tout à fait. Bon, j'imaginais pas que j'allais la rencontrer, mais bon, ça s'est fait.
C'est ça.
Et ça n'a pas posé de problème. Au contraire, je pense qu'en la rencontrant, c'est là que j' ai eu plus de respect. Avant, je ne veux pas dire que j'en avais pas, mais c'était tout à fait différent, le respect que je leur portais, tout à fait.
Ah oui. Bah, c'est un beau message, ça. Hein. Oui, mais c'est un beau message de tolérance.
Ah oui, tout à fait, oui.
Bon, ben c'est chouette.
Oui. Non, maintenant, on peut se poser la question pour le futur. Je veux dire, s'il y a encore d'autres rencontres, comment ça va se passer? Parce que ça, c'est pas non plus exclu. Hein. Je veux dire, Christine, c'est pas trop son genre. Si vous avez écouté son interview, vous le saurez. Elle a une position différente. Et je vais pas la pousser absolument à avoir d'autres aventures, parce que je pense qu'il faut qu'elle en ait. Elle fait ce qu'elle veut. Mais c'est vrai que s'il y en a encore plus, à ce moment-là, je deviens de plus en plus exigeante, personnellement. C'est-à-dire que j'ai toujours envie que ces personnes-là se soient claires avec tout le monde. Puis on est à un âge où on rencontre fatalement des gens qui sont déjà en couple. Je veux dire, c'est très rare de rencontrer des gens autour de 30 ans, de plus de 30 ans, on va dire, qui sont encore tout à fait célibataires. C'est rare. Donc, moi, je tiens beaucoup à ça. Et je trouve que... On peut vraiment faire beaucoup de choses. Enfin, je veux dire, on peut vraiment avoir beaucoup de perspectives. Par exemple, c'est drôle, des fois, je me pose la question des hommes, parce qu'il y en a eu, maintenant, il n'y en a plus. Et puis, sur le coup de 40 et quelques années, vraiment, je me suis dit, mon Dieu, il faut absolument que je réessaye pour voir si ça ne peut plus marcher. Pourquoi ça ne m'intéresse plus? Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai mis une annonce et j'ai encore cherché un homme. Et je l'ai trouvé. Et là, j'ai vraiment compris qu'en fait, les hommes, c'est le côté physique qui ne marche plus. Okay. Mais pour le reste, ça peut marcher très bien. Je veux dire, je peux très bien avoir une très grande entente. Je peux très bien même, à la limite, tomber amoureuse. Trouver un homme qui est d'accord pour tomber amoureux sans faire l'amour, ça va être difficile.
L'amour platonique, quoi, comme on dit.
Mais moi, j'y crois profondément. Mmh. Ça existe tout à fait, cet amour-là. Il n'y a aucun souci à ça. Et c'est de l'amour comme un autre, hein, je veux dire. Et j'ai beaucoup de mal à le faire comprendre aux gens, parce que vraiment, c'est quelque chose qui est tout à fait... passé de mode. Quand je dis passé de mode, ça fait 40 ans que c'est passé de mode. Hein. Je veux dire, on n'imagine plus un amour qui ne s'exprimerait pas physiquement. Mmh. Et plutôt sexuellement. C'est vraiment ça. Sexuellement. Parce que physiquement, on peut se faire des mamours, mais on n'appelle pas ça sexuel. Hein. Donc, alors que pour moi, c'est une expérience quotidienne. Quotidienne, j'exagère, mais je veux dire, c'est une expérience tout à fait possible. Ça se passe déjà d'une autre manière, avec encore une autre femme dont je ne vais pas parler, parce qu'elle est vraiment... Elle est très loin dans l'espace et je n'ai pas trop envie de parler des personnes absentes et qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ne s'expriment pas. Mais il y a quand même ça, il y a quand même un autre lien que j'ai et qui est, lui, absolument platonique parce qu'il se trouve que c'est comme ça. Mais pour moi, c'est un amour.
C'est ça.
Moi, j'appelle ça un amour et c'est un amour. L'amour n'est pas... Il n'y a pas 50 sortes d'amour, hein. Il y a un amour.
Est-ce que pour toi, parce que dans la langue française, il n'y a pas beaucoup de qualificatifs, hein. On parle de... L'amitié, de l'amour, on n'a malheureusement pas beaucoup de mots.
Oui.
Et pour toi, quels sont, on va dire, tes critères ? Enfin, c'est peut-être pas le bon mot, mais à un moment donné, tu sens que c'est OK, c'est plus de l'amour, ou ça, c'est une grande amitié ? Est-ce que tu fais une nuance, ou dans le fond, est-ce qu'il n'y en a pas ?
Je fais une petite nuance. C'est que, vraiment, quand on aime quelqu'un, on est prêt à faire beaucoup de choses pour l'autre personne. Mmh. On est tellement prêt qu'on en fait même plus que l'autre personne demande.
C'est ça.
Et ça, des fois, l'autre personne tombe un peu des nues, mais je veux dire... Dans mon expérience, c'est arrivé que l'autre personne dit « Bon, mais pourquoi tu fais tout ça ?» Je dis « Mais voilà, là c'est vraiment, on comprend que je le fais parce que je suis amoureuse, parce que j'aime encore plus. »
C'est ta façon de mesurer
c'est forcément la mienne.
Le taux de sentiment, si on peut dire ça comme ça.
Au fond, je ne voudrais pas dire, mais si on va regarder, c'est probablement un fond très chrétien.
Ah oui.
Ben oui, parce que en fait, c'est ça l'amour du prochain. L'amour du prochain, je ne parle pas du tout de sacrifice. Là, ce n'est pas un sacrifice. Oubliez ce mot-là, je n'ai jamais fait de sacrifice pour qui que ce soit. Mais c'est que vraiment, on a envie. On a un désir que l'autre personne soit tellement bien, que l'autre personne ait une belle vie, que l'autre personne soit bien. Et donc, pour faire ça, eh ben, je ne sais pas, moi, je donne de l'argent, je donne du temps, je donne des énergies, je donne ce que j'ai, quoi. Ce que j'ai. Et donc, ce n'est pas moi qui ai inventé le critère. Mais je veux dire, c'est sûr que. Je le constate. Je veux dire qu'effectivement, des fois, on me dit, mais tu en fais beaucoup trop, tu ne reçois rien en échange. Je dis, bah oui, peut-être, mais j'ai envie de faire. Je regrette pas. Je veux dire, si l'autre personne mérite, elle mérite. Elle confirmera qu'elle le mérite. Ou elle ne confirme pas, et là, je l'aimerai plus. Mais je veux dire, c'est difficile de prévoir à l'avance ce que ça va donner.
Je repars vers Marie-Paul. Par rapport à ce que, justement, Patricia vient de dire, dans l'ouverture comme ça de la discussion... Comment tu réagis quand tu entends Patricia un peu parler de cette façon de se mettre dans des relations ouvertes comme ça et où on en retire vraiment du bon, quoi.
Mais je la comprends tout à fait, ce qu'elle veut dire. Je trouve aussi qu'il y a l'amour sans sexe aussi qui existe, qui est, on peut dire, entre guillemets, platonique, mais c'est comme elle dit, c'est vraiment un amour aussi. J'en ai aussi. J'en ai plusieurs. Bon. Dans une vie, on a quand même plusieurs petits amours. Et je trouve que, bon, ça compte. Mm-hmm. Ça compte comme amour. Même s'il n'y a pas de sexe, même s'il y a peu de rencontres, ben, ça existe et c'est important. Ça fait partie de la vie, ça.
Et si tu devais faire un petit message comme ça à Patricia, tu lui diras quoi ? En direct. Un petit message, sentiment, comme ça.
Ben, je ne demanderais sûrement pas de m'épouser.
Ouais.
Ça, je pense que le message est bien passé, mais je voudrais dire que j'apprécie ce qu'on vit et que j'en demande encore, voilà, simplement.
Et qu'est-ce que vous partagez ensemble en dehors de l'amitié, enfin de l'intimité ? Donc tu parlais tantôt d'une dimension un peu plus culturelle dans tes attentes de visite, de balade, ou c'est des choses que tu fais souvent aussi, hein, Patricia ?
Oui, justement, je fais plus ce genre de choses avec Patricia qu'avec Mélanie. Donc, c'est ça qui est bien, parce qu'elle m'ouvre sur certaines cultures, sur le théâtre, que je n'allais pas tellement souvent, sur certaines choses, avec elles, je suis complètement à l'aise. Je peux demander des choses que je ne comprends pas, sans qu'elle me rayonnait, ou sans... Elle m'explique avec sa patience, qu'est-ce que ça veut dire, ou des choses, qu'elle m'ouvre les yeux sur certaines choses, je trouve ça bien.
Ah ouais.
Oui, c'est très intéressant.
C'est ça. Et dans la relation avec Mélanie, c'est autre chose, quoi. C'est d'autres choses qui sont apportées, là.
Oui, tout à fait. C'est tout à fait une autre vision, tout à fait une autre façon de penser, une autre façon de vivre. Donc, c'est complètement différent.
Donc, moi, je rebondis par rapport à ta relation aussi avec Christine, où tu es vraiment aussi dans quelque chose de différent.
Oh oui, complètement différent. Il y a quand même une bonne et c'est une autre génération, hein, déjà, ça change vraiment beaucoup, hein, on ne vit pas les mêmes choses à des âges aussi différents, puis c'est même deux pays différents, donc ça fait vraiment, parce que Christine est française, Marie-Paul est belge, et donc, comment dirais-je, c'est vraiment tout à fait différent, mais... ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est un peu la même chose pour moi. Il y a bien évidemment des choses que je fais avec Marie-Paul que je ne peux absolument pas faire avec Christine, puisque ça ne l'intéresse pas du tout. Mm-hmm. Comme, je ne sais pas, moi, aller passer des soirées dans les bars, boire, fumer, ces choses-là. Christine, ça ne l'intéresse plus. Elle n'a énormément fait quand elle était jeune, mais maintenant, elle préfère rester à la maison avec un bon livre, ce que je fais aussi. Mais bon, je suis aussi contente de faire les deux choses. Et des choses vraiment diverses et variées. C'est... Au fond, c'est ça qui fonde les relations des gens, c'est ce qu'on aime faire ensemble. Donc, peu importe, même si on a une seule activité en commun, même si on n'a que faire l'amour ensemble, c'est déjà une façon. Mm-hmm. C'est déjà une relation. Moi, je trouve que... Donc, je dis ça parce que, par association d'idées, ça m'est arrivé de voir quelqu'un qui était, c'était une femme d'ailleurs, donc au mieux que je dise une femme, qui était presque, qui avait envie de faire plus de choses avec moi que faire l'amour, et moi je cessais de lui faire comprendre que comme on faisait l'amour elle et moi, ben, c'était quelque chose que je n'avais avec personne d'autre. Mmh. Et donc c'était une façon de communiquer très importante, que ça me manquait, et que bon, on ne faisait pas que ça, je veux dire, bon, il y a toujours quelque chose à côté, mais ça, pour moi ça suffisait, pour moi j'appelle ça une relation.
Bien sûr.
C'est une relation, oui. Mais il y a des personnalités qui vont toujours chercher autre chose, qui ont toujours besoin de mettre des mots sur des choses et pour lesquelles c'est très difficile d'accepter une relation sexuelle sans autre chose de dit. Je ne dis pas sans autre chose tout court, parce qu'il y a toujours autre chose. Ce n'est pas possible qu'il y ait juste une échange comme ça, surtout entre deux femmes. Mais je veux dire, il fallait absolument qu'on appelle ça une amitié, par exemple. Et moi, je n'étais pas d'accord qu'on mette ce mot amitié dans ce cas-là. Mm-hmm. Pour moi, non. C'était pour l'amitié, si je me trouvais mieux avec d'autres personnes. Mm-hmm. Mais ça, c'est un espèce de message que j'envoie. C'est pour dire, ce n'est pas parce que vous avez seulement une relation sexuelle avec quelqu'un que ce n'est pas une relation valable.
Bien sûr.
Il y a beaucoup de femmes qui ne se résignent pas à ça, qui veulent absolument plus parce qu'on ne veut pas être des objets sexuels, parce qu'on ne veut pas être réduit à un seul rôle, parce qu'on ne veut pas se sentir dans une seule case, parce qu'on a toujours cette envie d'être tout pour l'autre. C'est impossible, tout pour l'autre. Personne n'est tout pour l'autre, ou alors on est Dieu. Donc, vraiment, il faut accepter, comprendre le rôle qu'on joue pour l'autre. Mm-hmm. Et puis bien savoir que personne n'est tout. Que ça n'existe pas. Donc, effectivement, il y en a qui sont beaucoup et d'autres qui sont moins, ça d'accord. Mais moins, ça ne veut pas dire moins bien. Mm-hmm. Moins, ça veut dire juste qu'on soit moins longtemps, à la limite. Mais la qualité des moments qu'on vit ensemble, si elle est bonne aussi bonne qu'une autre. Il n'y a pas de hiérarchie entre lire un livre, aller au cinéma, se communier à l'église et faire l'amour. Je veux dire, c'est pareil. Ce sont toujours des façons de communiquer, de connaître et de vivre.
Dans le mouvement polyamoureux, est-ce que tu as l'impression qu'il y a d'autres petits soucis qui pourraient apparaître, puisque là on a fait le tour de tout le positif, et je me dis, tiens, est-ce qu'il y aura d'autres petits soucis ou des choses auxquelles vous devriez faire attention, qu'un couple exclusif n'aura pas oui. Des soucis qui sont peut-être propres, qui sont propres à l'ouverture des amours pluriels?
Absolument. Il y a tout à fait des soucis qui sont propres aux amours pluriels, comme tout dit, et ça vient beaucoup de ce que j'appelle le problème de la hiérarchie. Par exemple, Clémentine, notre amie commune, je l'admire profondément parce que je ne la vois pas instaurer de hiérarchie entre ses différents amours. Et c'est quelque chose que moi je m'efforce de faire, mais qu'il n'est vraiment pas facile de faire. Mmh. Parce que ce que je viens de dire là sur le fait que chaque moment vécu ensemble a une égale valeur, c'est très beau, mais dans la pratique, il est bien évident qu'il y a quand même des gens avec qui on passe plus d'années, qu'on voit plus souvent. Enfin, je veux dire, il y a quand même une hiérarchie de fait, quand elle n'est pas exprimée, qui se fait. Et tout l'important, vraiment le souci qu'il peut y avoir, c'est que la personne qui est moins considérée puisse se sentir très mal. Ça, c'était très clair quand les choses... Pour d'autres relations, là je reviens à Sartre et Simone de Beauvoir, pour lesquelles ça a créé vraiment des drames. Je veux dire, eux, c'était très clair qu'il y avait une relation principale et toutes les autres qui tournaient autour. Les personnes qui s'approchaient étaient libres, enfin, le savaient quand elles le savaient, parce que bon, c'est tout un autre discours, toutes ne le savaient pas, mais enfin bon, quand elles le savaient, étaient libres d'accepter les situations, mais même en l'acceptant, la souffrance n'est pas exclue. C'est sûr que s'il y a quelqu'un d'aussi charmant que des personnes comme ça, on a vraiment envie d'être souvent avec elle. C'est sûr que ce sont des personnes, s'il y a des personnes qui ont un très grand pouvoir d'attraction, qui sont très séduisantes, on a plus envie d'être séduite. Et, d'être, et dans le cas de ces gens-là, ça a porté jusqu'au suicide. Il y a une femme qui s'est suicidée, mais tout à fait, c'était... Eh oui, on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle presque pas, mais il y en a une qui s'est suicidée pour Sartre. Parce qu'elle savait très bien que jamais elle détrônerait ni Simone de Beauvoir, ni toute l'autre cour qu'il y avait après. Et moi, j'en vais pas... Bon, je compare pas ce qui n'est pas comparable, mais c'est pour dire qu'effectivement, je voudrais vraiment éviter les souffrances. Les miennes et celles des autres. Parce que moi aussi, je peux avoir de la souffrance comme ça. Moi aussi, je peux être dans une position de seconde par rapport à d'autres, ou de troisième. Et là, c'est vraiment un effort énorme qu'il faut faire. Parce qu'on n'est pas non plus des anges, on n'est pas capable. C'est pour ça que je dis que Clémentine, je l'admire beaucoup, je ne sais pas comment elle fait. C'est très difficile. Moi, même instinctivement, je fais une petite hiérarchie. Sauf que je le dis, je l'annonce, je le proclame, je le dis le plus possible. Et que, donc, j'espère que tout le monde s'en sort aussi bien que possible. Mais ce danger-là de souffrance, je le vois très très bien. J'ai éliminé le problème de la jalousie parce qu'il me semble qu'on ne devrait pas en avoir. Et qu'en principe, cela dit... La jalousie existe aussi. Hein. Moi-même, j'ai toujours un premier mouvement de jalousie dès qu'on m'annonce quelque chose, et puis après, je me raisonne. Je dis, bon, ma chère, ok, d'accord, effectivement, ça t'embête. Ok, ça t'embête. Cela dit, tu n'as rien à y faire. Les autres vont le faire quand même. Toi, tu le fais, il n'y a pas de raison. Donc, c'est vraiment la raison. Celle-là, c'est vraiment la raison qui prend le pas. Et Dieu merci, parce que sinon, on se tuerait les uns des autres.
C'est un beau travail de contre-pied par rapport à la société qui, elle, dans certaines situations, encourage, ou en tout cas... comment on va accepter une certaine jalousie. On a déjà entendu des histoires comme ça où on comprend mieux que quelqu'un, par exemple, a été un peu violent parce que c'était par amour. Ou...
Bon. Mais... Pire que ça, on donne des atténuantes aux maris qui tuent leur femme par jalousie. Je veux dire, ça, c'est une foule, c'est une aberration. Ouais. Je veux dire, c'est une atténuante, c'est une raison atténuante parce que la femme l'a trompée. Donc, et je vous rappelle qu'en Italie, et probablement ailleurs aussi, il y avait le délit d'honneur jusqu'à il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire, un mari qui tuait sa femme pour ces raisons-là, il prenait quoi ? 5 années de prison, pas plus ? Je veux dire, c'est une honte. C'est effectivement, la jalousie est considérée un sentiment honorable. Je crois qu'on n'en est plus à ces extrémités-là. Je ne suis même pas sûre qu'en Italie, ça existe encore. Mais pour vous dire que c'est effectivement considéré un sentiment honorable, alors que dans mon cas, c'est vraiment... on cède à un instinct qui est un instinct de propriété et qui n'a vraiment plus raison d'exister. Je veux dire, effectivement, on a aussi l'instinct de dépecer notre prochain, certainement. Mais il faut bien le gouverner, celui-là, sinon on se dépece les uns les autres. Je veux dire, ça vient du même moment.
Mais ça, c'est voilà. Quelque chose, tu as l'impression, qui est un acquis depuis longtemps chez toi. Tu parles de ton enfance, tu as l'impression que tu étais assez jalouse.
Je suis jalouse peut-être pas, mais possessive certainement. J'avais la tendance à accaparer l'attention de tout le monde. Donc c'est sûr, j'étais là toute petite et personne ne me prêtait d'attention. J'étais au milieu d'adultes, donc c'est sûr que dans ce cas-là, il faut effectivement se démener pour attirer bien l'attention et puis pour garder toute l'attention de tout le monde sur soi. Mais en grandissant, on se rend compte qu'on n'a pas besoin que tout le monde vous regarde tout le temps. Même si on ne vous regarde pas, même si on ne pense pas à vous pendant des années, il reste le souvenir, il reste le sentiment. Et on peut très bien être beaucoup plus équilibré par rapport à ça.
Je me tourne vers Marie-Paul avec la même question. Donc, est-ce que dans le mouvement polyamoureux, est-ce que tu as l'impression qu'il y a d'autres difficultés qui apparaissent, qui n'existent pas dans une relation exclusive, quoi?
À part la jalousie, non, je vois. Il n'y a que ça.
Ça veut dire devoir gérer ça autrement, c'est ça?
Ah oui, il faut d'abord avaler, et puis réfléchir, et puis effectivement digérer. Et puis avoir une bonne petite réflexion, et puis tout roule.
Et toi, tu as fait ça progressivement, ce travail-là?
Je le fais encore d'ailleurs, oui, progressivement, oui.
À chaque fois, tu sens que c'est une petite victoire et que ça t'ouvre vers quelque chose de plus apaisant, c'est ça?
Oui, tout à fait, oui. Oui.
Et pour rebondir par rapport à ce que Patricia disait aussi sur cette façon d'annoncer, peut-être dans une belle transparence, essayer de, même si on sait que c'est utopique et qu'on n'est jamais vraiment dans l'expression, tout à fait juste de soi, parce qu'on a un regard sur soi, bien sûr, mais il y a l'élan de sincérité qui compte. Et donc là, je sentais chez Patricia cette idée de dire, bah oui, tiens, j'ai une relation qui a l'air un peu plus prépondérante, et de l'annoncer un peu à l'autre. Est-ce que toi, tu vis aussi des moments où tu dis, bah, j'essaye d'être le plus transparente possible avec mes partenaires, c'est ça?
Oui, il faut ça fait partie aussi du respect, donc je pense qu'il faut être. Il faut essayer d'être impartial. Oui.
Est-ce qu'il y a des moments où tu te sens moins. Avoir plus de difficultés à l'être?
Oui, oui.
Ouais.
Oui.
Et donc, est-ce que c'est par le dialogue que tu vas réussir? Est-ce que tu as besoin de moments de parole plus importants à certains moments avec tes partenaires?
Oui et non. D'abord, j'essaye de faire la réflexion sur moi-même. J'essaye un petit peu de trouver les solutions. Et puis, si je vois que je n'y arrive pas, oui, j'en parle. Donc, au début, un petit peu maladroitement, mais après ça va mieux.
Bah, c'est une belle histoire, en tout cas.
Oui.
Est-ce que toi, tu te sens vraiment comblé, par exemple? Est-ce que tu te dis, voilà, moi j'ai deux partenaires, ça me paraît très bien? Ou est-ce que tu ouvres un potentiel aussi, peut-être plus tard, d'autres gens en plus? Ou tu te dis, non, c'est très bien?
Ah non, je dis pas... Oui, d'autres personnes peuvent encore venir dans ma vie. J'ai que 34 ans, donc je pense que je vais encore vivre des histoires d'amour. Mais pour l'instant, je suis bien avec les deux personnes qui suis. S'il y en a une autre qui vient encore, ben, elle sera la bienvenue. Je serai claire avec elle aussi, donc, mais oui, pourquoi pas.
Et donc, quand Christine était là aussi, je me souviens d'une qualité qu'elle avait l'air de connaître sur elle-même et qui avait l'air importante, d'être bien avec soi. Est-ce que forcément, quand on vit plusieurs amours avec plusieurs personnes, est-ce que tu ne penses pas que d'abord, il faut d'abord être bien avec soi-même et être dans une certaine sécurité affective pour soi?
Pour ma part, c'est difficile parce que de ce côté-là, j'ai beaucoup de problèmes. Donc, c'est beaucoup à gérer. C'est beaucoup à. Vraiment. C'est fort à gérer. J'ai besoin de fort à gérer et d'en parler. Sinon, je m'en sors pas.
Et si ça veut dire que si tu es un peu seule quelques journées, à un moment donné, ça te pose un petit stress ou...
Non, pas spécialement des journées, parce que j'aime bien ma solitude, j'aime bien mon chez-moi. Mais c'est vrai que bon, j'attends l'une ou l'autre téléphone ou des choses comme ça. Donc j'attends, oui, que de leur part, qu'il y ait quand même un petit manque.
C'est ça.
Oui.
Tu voulais réagir?
Non, non, je pensais au manque, effectivement. C'est quelque chose que... On a moins l'occasion de prouver quand on a plusieurs relations, parce que forcément, comme voilà, ça vient éprouver carrément un manque, ça devient difficile. Sauf si voilà, on a des relations vraiment à grande distance dans l'espace. Là, oui, ça aussi, c'est une autre possibilité qu'on n'a pas évoquée, mais dans ce cas-là, oui. Moi, je sais que j'en ai une justement, que je suis ravie d'arriver à voir une fois par an, c'est vraiment génial, mais sinon, c'est plutôt une fois tous les 2-3 ans. Et là, le manque se fait sentir assez régulièrement. Je veux dire, là, il faut que j'attrape mon téléphone, il faut que je lui parle, au moins, c'est tout ce que j'ai. Je veux dire, je ne peux pas faire de miracle, s'il y a des milliers de kilomètres, il y a des milliers de kilomètres. Moi, je ne vais pas changer ma vie, elle non plus, donc voilà. Mais effectivement, c'est proportionnel à la distance. Et beaucoup de gens ont du mal avec ça parce qu'ils veulent pas, ils veulent prouver aucun manque. Mmh. Là, moi, vraiment, je me suis toujours posé la question, comment on fait pour vivre une vie classique avec un mari, avec des enfants Je n'ai rien contre les enfants, mais je veux dire cette chose, cette sécurité que c'est toujours là, à portée de la main. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours épatée, avoir qu'à tendre la main pour pouvoir toucher l'objet de notre... c'est vraiment un grand besoin de sécurité que nous avons tous, mais qui est rendu pathologique, souvent. Parce que pour s'assurer cette sécurité, on a créé le mariage, on a créé la monogamie, on a créé quelque chose qui, dans la réalité, ne nous rend pas du tout heureux. Enfin,
est-ce que tu penses qu'il y a justement un ancrage politique derrière cette sacralisation du mariage qui, quelque part, impose un modèle? Est-ce que tu as l'impression que c'est cohérent avec notre type de société? Est-ce que ça participe à une sorte de colonne vertébrale?
Ça participe tellement qu'aucun parti politique ne propose l'abolition du mariage. Au contraire, on a créé le mariage pour les homosexuels. Et ça, c'est pour moi, ça a été vraiment un regret, pas un progrès, parce que maintenant, du coup, tu rencontres des lesbiennes qui te disent « Pourquoi tu ne m'épouserais pas ?» Je veux dire qu'ils reproduisent... Justement, il n'y a aucun rapport entre l'orientation sexuelle et certains genres de choix, parce qu'on veut reproduire ça, alors que moi, je me dis « Mon Dieu, le bien-être des enfants ne devrait pas être assuré par le mariage. » Mais un enfant aurait le droit de vivre et d'être assisté, et d'avoir sa santé et ses choses, et les choses auxquelles il a droit, tout simplement parce qu'il est né. Donc, ce serait l'enfant... qui a le droit lui-même, et non pas à travers ses parents, qui donc ont intérêt à être mariés, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui font ça. Et vraiment, moi je vois que c'est là le clivage, la séparation, la différence entre les gens qui ont envie d'un modèle pluriel, différent, et ceux qui croient absolument au mariage. En fait, le mariage a été fait pour l'héritage, pour assurer que l'enfant qui naît est vraiment un tel père. On sait que c'est jamais vrai, mais bon...
Donc il y a le patriarcat qui est pas très loin derrière.
Ah, mais tout à fait, et c'est ça le problème que j'ai souvent avec des lesbiennes qui sont pas féministes, par exemple. C'est que je n'arrive pas à faire... Enfin, je n'arrive pas. Disons qu'elles sont moins sensibles à ce genre de discours et reproduisent très volontiers un modèle dans lequel je me retrouve pas du tout. Et bon, moi, je sais que... Cette histoire de l'abolition du mariage est quelque chose à laquelle je pense depuis toute jeune, mais que j'arrive à faire comprendre à personne. Je parle bien du mariage civil, attention. Parce que par contre, pour les gens qui ont une foi, qui y croient, eh ben, ils veulent s'unir dans leur religion. Je veux bien le comprendre, ils vivent dans une communauté religieuse, mais sans effet civil. C'est-à-dire, là, ça devient quelque chose où ils sont prêts à payer un prix, où ils devraient être prêts à payer un prix. S'ils n'avaient plus aucun avantage, aucun privilège du mariage civil, comment ils vivraient ça? C'est ça ma question. Je veux dire... Si on mélange les deux, et c'est pas très honnête, moi je trouve. Vraiment, bon, ça c'est ma prise de position personnelle.
Marie-Paul, par rapport à ça, donc on parle un peu mariage, patriarcat, est-ce que c'est des choses, qu'est-ce que ça t'évoque?
Moi, pour le mariage, je suis contre, donc le fait qu'ils ont fait le mariage homosexuel, c'était simplement politique. C'est ça, simplement pour avoir plus de... C'est pour les élections, c'est pour avoir... les homosexuels, ils sont de plus en plus. Maintenant, on ose se montrer beaucoup plus. Donc, effectivement, je pense que c'est pour les mettre dans la poche. Sinon, ça sert strictement à rien de se marier, de toute façon. Parce que même s'ils se marient, qu'il y a un qui décède, l'autre ne veut pas hériter de ce que l'autre a laissé. Hein. Ça, c'est une illusion, hein.
Pourtant, il y a quand même un passage devant notaire, mais ça n'a pas l'air de fonctionner comme ça, alors.
Ça ne fonctionne pas du tout, non. Il y a toujours la famille qui est prioritaire, ou quelque chose dans la loi qui dit qu'en fin de compte, les homosexuels peuvent se marier, mais il y a des choses qui ne sont pas totalement correctes.
Mais j'ai l'impression que moi, j'avais entendu dire qu'il y avait quand même, par exemple, une habitation qu'ils auraient achetée ensemble, ou un loyer, ou une location, où l'autre ne serait pas tout de suite mis dehors. Ça, c'est illusoire, t'as l'impression?
Oui, tout à fait, c'est illusoire, tout à fait. Ça, une fois que l'autre... allez, qu'ils ne sont plus en couple, donc effectivement, c'est beaucoup moins pour l'autre. Malheureusement, c'est comme ça.
Il me semble que dans d'autres pays, comme la Hollande, il y a vraiment un mariage qui a l'air plus officiel possible. Alors, il y a les mariages à trois aussi, on en parle parfois.
Pas encore.
Non, mais j'entends sur le net là, deux, trois choses là-dessus.
En Suède.
Mais je termine avec Marie-Paul par rapport à l'idée, donc, de est-ce que le mariage serait un peu la colonne vertébrale du système, peut-être même capitaliste, monothéiste, patriarcal, c'est quelque chose d'assez... une colonne vertébrale comme ça.
Ah oui, ça c'est vraiment ce qu'on a inventé vraiment pour soit comme les petits moutons, hein, on oblige à se marier, il y a des choses comme ça, à se ranger, d'avoir un bon petit travail, de rentrer, d'avoir des enfants, ça tout le monde doit avoir. Mais c'est pas ça la vie, ça. Si on continue à vivre comme ça, ben on fonce dans le mur, et c'est comme ça qu'il y a des catastrophes comme des jalousies, comme des meurtres, et on tue les enfants parce que bon, on tient plus. Ça, on perd trop vite la boule. Il faut libérer les gens comme ça. Il faut leur dire vivez votre amour, vivez avec plusieurs, soyez clairs avec les deux parties, arrêtez de vous cacher et il y aura moins de problèmes, je pense.
Donc ça, c'est une conviction profonde que tu as. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression quand même qu'il y a des couples qui réussissent à vivre à deux et qui ont l'air de s'en sortir pas trop mal, ou tu as l'impression que c'est vraiment une façade et que dans le fond, tout le monde va être malheureux si on vit jusqu'à deux, quoi?
Ah non, non, il y a des couples qui tiennent et qui sont bien, attention, hein, bon, j'en connais pas mal, qui sont vraiment des très bons couples. Bon, tout le monde a sa façon de vivre, tout le monde a sa besoin, c'est en fait un besoin d'amour plus profond. Quelqu'un s'est assis avec une seule personne d'avoir de l'amour, des sentiments, et donc c'est juste suffisant, et d'autres qui ont besoin plus d'amour, là qu'à ce moment-là, ben, c'est beaucoup plus éparpillé, quoi. Ben ça, oui, les gens, moi je suis convaincue qu'il y a des gens hétéro-homosexuels qui sont ensemble et qui peuvent faire toute leur vie comme ça, ça c'est sûr. Mm-hmm. C'est une façon de vivre aussi.
Mm-hmm. Oui, chouette, un petit mot de la fin comme ça.
Wow. Hmm, on demande beaucoup.
Donc là, ben, c'était quand même aussi une première pour moi d'inviter d'un côté Patricia et Christine dans un premier temps, et puis Patricia et Marie-Paul, donc... Il y a une petite continuité comme ça dans l'échange radiophonique. Un petit message, quelque chose qui te donnerait envie de conclure comme ça dans la discussion. Ou alors on continue. Hein. Bon, c'est...
Oh, continuer, je ne sais pas. Un petit message, c'est vraiment... n'ayez pas peur, quoi. C'est-à-dire, faites confiance à vous-même. Il est exact qu'il faut être bien avec soi-même. Ça, c'est sûr. Ça, tu l'avais dit. Je rappelle, effectivement, si on a encore du travail à faire sur soi... Être bien avec soi-même, ça se résume à très peu de choses, à savoir ce qu'on veut. On peut mettre un certain nombre d'années avant de savoir ce qu'on veut. Hein.
Mais tiens, je fais une référence, justement, c'est une question que je voulais encore te poser, à un document qui est notamment en ligne sur polyamour.info. Donc, ce que les professionnels de la thérapie devraient connaître, c'est un document qui a été traduit de l'anglais, et qui est un message adressé aux thérapeutes pour, avec des chiffres et aussi des statistiques, et qui a l'air d'expliquer... qu'en fait il faut arrêter de prendre des polyamoureux pour des gens un petit peu immatures ou des gens qui sont dans une grande crise et qu'on doit absolument remettre sur le droit chemin. Est-ce que tu confirmes aussi qu'en effet il y a peut-être un travail d'éducation chez les thérapeutes à faire?
Je n'y pensais pas, mais effectivement, parce que le problème du thérapeute, moi ce que j'ai fréquenté, moi, n'avait aucune espèce d'envie dirigiste. Et il n'était pas en train de me dire quelles étaient les liaisons que je devais avoir et comment. Mais je sais qu'il y en a. Je sais qu'effectivement, il y en a qui essayent d'adresser vers soit l'hétérosexualité, soit le mariage, soit un lien unique, etc. Et au contraire, je trouve que ça demande beaucoup de maturité que d'être capable de gérer plusieurs liens maintenant. Mm-hmm. C'est beaucoup plus facile d'en avoir un seul. Et puis d'être jaloux, je veux dire, bon, c'est élémentaire. Je veux dire, c'est on est jaloux, puis on divorce, on se tape sur la gueule. Enfin bref, je veux dire. Et en même temps, c'est aussi un peu un business. Quand vous pensez, pensez un peu aux riches qui sont mariés et qui sont là en train de traquer l'infidélité du conjoint pour ne pas verser les aliments. Je veux dire, ça, c'est absolument sordide. Ce genre de choses, c'est vraiment... Moi, ça m'a fait... Je me dis, tout ça est vraiment inventé pour que le système dure. Mm-hmm. Donc, pas seulement le système de la famille, mais aussi le système économique, tout. Donc, non, franchement, non. Effectivement, le thérapeute devrait chercher l'épanouissement de la personne. Et si la personne a besoin d'aimer à plusieurs directions, eh ben, faut le laisser libre de le faire. Enfin, il faut juste se connaître. Si on est comme ça, effectivement, après, comme disait Marie-Paul, il y a des gens qui préfèrent la monogamie, c'est leur choix, leur droit le plus absolu. Loin de moi, l'idée de vouloir nier aux gens qui sont monogames l'envie de l'être, mais il faut qu'ils le veuillent vraiment. Mm-hmm. C'est ça que je veux dire. Il faut que ce soit leur besoin, leur désir, et qu'il n'en ait pas d'autre. Là, je suis d'accord qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Je veux dire, c'est très bien. L'important, c'est que les gens soient heureux. Mm-hmm. S'ils trouvent le bonheur dans un seul lien, qu'ils le trouvent. Moi, je ne le trouve pas. Voilà.
Moi, j'ai de la chance d'avoir une thérapeute qui, justement, qui me pousse, qu'elle comprend exactement que j'ai besoin de deux personnes pour me trouver moi-même. Donc, elle écoute mes deux amours, elle m'écoute et elle me pousse dans la bonne voie, elle se rend bien compte. Bon, elle est hétéro, donc ça... mais elle me dit son opinion et elle trouve que je suis épanouie depuis que j'ai les deux amours. Elle trouve que je suis épanouie, que je m'ouvre beaucoup plus, que j'ouvre des perspectives que je n'osais pas avant. Donc je pense que moi, je suis tombée sur une bonne thérapeute. Mm-hmm. Donc elle pense pas à faire du fric à me dire, écoute, il faut absolument que tu sois hétéro, il faut que tu te maries, il faut que tu aies des enfants. Non, elle veut mon bien-être. Donc, j'ai peut-être trouvé la seule thérapeute qui n'a pas besoin de trop de fric. Mais bon, celle-là, franchement, c'est une bonne.
Mmh. Et en t'écoutant, je pensais aussi donc, à ce modèle de société, donc être dans des amours monogames exclusifs, a l'air d'être quand même pas si simple, puisque c'est le modèle proposé, et quand on voit un petit peu aussi tout le tapage médiatique, les publicités, tout un discours qui fait pression sur ces couples en leur proposant tout le temps d'être dans la séduction, je me dis mais c'est pas évident. Donc peut-être que nous les polyamoureux on a un petit peu cette chance de pouvoir être dans un autre regard par rapport à cette espèce de modèle qui a l'air inatteignable en fait.
Ben oui, mais quand j'explique mes amours à certaines personnes, leur réaction c'est oh t'as de la chance. Ah, je oui. fais mais pourquoi j'ai de la chance? Mm-hmm. Je fais mais c'est pas une question de chance, c'est question d'ouverture d'esprit aussi. Je fais si toi tu dis que j'ai de la chance et que tu aimes quelqu'un d'autre. Donc pourquoi pas être clair déjà avec soi-même et essayer d'expérimenter vraiment le bonheur. Parce que c'est ça, c'est le bonheur. C'est pas spécialement tromper son copain ou sa copine, c'est expérimenter son cœur, ses sentiments. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient... Il y aurait moins de personnes dans l'hôpital psychiatrique, des gens moins en dépression, s'ils ouvraient leur cœur et si, en fin de compte, ils réfléchissaient, ils disaient « Ah ben oui, c'est vrai, peut-être deux amours, trois amours, quatre amours, ah ben, ça se trouverait peut-être la vie. »
Donc c'est comme s'il y avait une pression aussi. Bon, moi aussi, j'ai fait des animations audiovisuelles dans un institut psychiatrique et j'ai rencontré des gens en souffrance, bon, pour d'autres raisons aussi, mais peut-être comme tu dis qu'il y a une partie des personnes qui, au niveau affectif, ont l'impression d'être dans une voie de garage et qu'on ne leur dit pas qu'en fait il y a peut-être d'autres chemins, quoi.
Oui, je pense que justement dans les hôpitaux, c'est justement ça. Là, à ce moment-là, ce sont des gens qu'il faut remettre sur place. Alors évidemment, les médecins, c'est écoutez, il faut prendre vos médicaments, il faut vous en sortir. Donc là, la psychologie, là, n'est pas assez vraiment expérimentée, ouais, pour vraiment aider ces gens-là. Parce que c'est pas les pilules qu'ils ont besoin, c'est pas leur dire écoutez, vous allez trouver quelqu'un d'autre. C'est pas ça qu'il faut dire. C'est vraiment essayer que.
C'est explorer tous les possibles, quoi.
Tout à fait, oui. Mmh. Oui. C'est dire aux gens, écoutez, vous avez plein de possibilités. C'est de montrer, d'expérimenter. Je trouve qu'on devrait en plus en parler pour que les gens disent, ah ben oui, voilà, c'est une nouvelle vie. C'est
quelque chose. Ben, François Saint-Père dit aussi, par exemple, qu'en fin de compte, être polyamoureux, c'est parfois aussi être seul et revendiquer qu'on est bien seul, même sans relation.
Ah. Je suis ravie de l'entendre dire.
Ben oui.
Non, mais... Il faut quand même être un peu seul avec soi-même pour pouvoir bien s'assumer dans d'autres. Si on est totalement dépendant de quelqu'un, on n'est pas autonome et on ne peut pas gérer plusieurs liaisons en même temps.
Il n'y a rien d'obligatoire, en fait.
Ah non, il n'y a absolument rien d'obligatoire, sauf le bonheur, si je peux ainsi m'exprimer. Enfin, si on veut être malheureux, on peut aussi, mais la plupart de nos contemporains, ils réussissent très bien à être malheureux. Donc, mais moi, j'ai fait des petites associations d'idées pendant que vous parliez. Et je ne voudrais pas qu'on ait là, dans cette émission en particulier, une idée du polyamour, enfin, mm-hmm. de un peu trop angélique, tournée mm-hmm. vers l'amour. Non, mais ce n'est pas un reproche que je fais, c'est tout simplement pour dire, parce qu'il y a des nuances, effectivement, voilà. C'est avoir plusieurs relations amoureuses, mais moi je voudrais aussi remettre l'accent sur les plusieurs relations sexuelles, mm-hmm. parce qu'en fait, les deux sont bonnes. Mm-hmm. Je veux dire, on peut parfaitement avoir des relations avec de l'amour sans sexe, des relations avec les deux, et des relations avec juste du sexe. Et ça, c'est quelque chose qu'on s'autorise très peu. Souvent, les gens, ils disent, ils cachent ces incartades qu'on peut avoir, le fait qu'on peut avoir une... une envie sexuelle ponctuelle ou qui se répète avec une personne et qu'il n'y a que ça. On en a honte, en quelque sorte, on le cache. On dit tout de suite, ah mais non, avec l'autre, c'est sérieux, je vous assure, c'est sérieux. Comme si faire l'amour n'était pas sérieux. On dit, oh, or, c'est quelque chose qui contribue beaucoup à l'équilibre psychique et mental et physique des personnes. Vraiment, moi, je me dis, j'ai fait une autre association, je viens de lire un article très, très intéressant sur la sexualité des personnes handicapées. Je travaillais, moi, quand j'étais plus jeune.
Il y a
jeune,
un film, il y a 20 ans, qui s'appelait Gabi. Je ne sais pas si tu as vu ce film.
Ah, moi, je ne l'ai pas vu.
Mais... Il s'appelait Gabi, un film avec des gens en chaise roulante. Et qui est audacieux parce qu'on les voit se caresser. Donc, c'était...
Ah.
Et aller même au-delà. Donc, c'est un film assez qui est fait avec le cœur. Et... Enfin, voilà.
Mais très bien. Mais il y a l'handicap physique, mais il y a aussi l'handicap mental. Et dans ce cas-là, c'est plus difficile. C'est beaucoup plus dur. Moi, je travaillais dans... Enfin... C'est dur aussi pour les handicapés physiques, hein, parce qu'on nie complètement leurs besoins. Mais pour les handicapés mentaux, c'est encore plus difficile, parce qu'ils sont dépourvus de langage, la plupart du temps. Enfin, ils ont un langage qui n'est pas exactement le même que nous. Donc c'est assez difficile. Et moi, je travaillais dans un foyer pour handicapés adultes. Et je me posais cette question-là. Les éducateurs, moi j'étais secrétaire, hein, donc je n'avais rien à faire avec les éducateurs. Et je me posais cette question, je me disais, mais les éducateurs ne pensent pas aux besoins sexuels de ces... C'était des adultes, hein. Quand je dis adultes, c'est à partir de 18 ans jusqu'à leur mort. Et bon, il y en avait une ou deux qui s'étaient mariés, ça se voyait bien parce qu'ils avaient eu des enfants. Mais à part ça, mais c'était toujours des divorces.
Il y a aussi le film National 7 avec Olivier Gourmet, le Belge. Là, tu dois voir qui a été tourné en France. Où il y a justement un endroit où vivent plusieurs handicapés. Et à un moment donné, la question se pose. Il y a un éducateur qui ose faire le choix de dire qu'il faut trouver une solution. Et donc, ils organisent en fait des visites chez les prostituées. Mais alors, ça pose tout un problème. Bon. Mais c'est tout un travail d'approche avec des prostituées qui sont d'accord. Enfin, mais c'est un très, très beau film. Donc, je t'engage aussi à le voir.
Bien sûr, je le verrai avec plaisir. Et justement, l'article parlait de ce problème-là. C'est-à-dire qu'on assimile... Enfin, le but de l'article, c'était de parler d'une nouvelle fonction qui vient de naître et qui s'appelle l'assistance sexuelle.
En Hollande, ça existe. Hein.
À Hollande, voilà. En Hollande, ça existe. Et il paraît... Et en Suisse allemande aussi. En Suisse allemande, ça existe aussi. Et donc, le problème, c'est que justement, moi, je peux parler de la France où ça n'existe pas du tout. Et ça pose un vrai problème. Hein. C'est évident que ça pose un problème. Parce qu'on ne peut pas demander aux éducateurs de
on
faire
commence
ça.
À dire que c'est s'occuper de la santé des gens aussi.
Mais tout à fait. Et ce qu'on a. Et donc, bon, c'est une formation qui est assez difficile, ou pour laquelle il y a une sélection, qu'il faut payer de sa poche, etc. Et le propos de l'article, c'était aussi de dire que beaucoup de fois, ces gens-là sont énormément calmés par très peu de choses. C'est-à-dire qu'il y en avait un, par exemple, qui avait tout ce qu'il avait demandé. Il faut vraiment essayer de comprendre ce qu'on demande, parce que la demande n'est pas du tout la même. C'est pas forcément la même que nous. Et donc, il y en a eu un qui voulait tout simplement voir les seins d'une femme. C'est tout. Il a vu les seins d'une femme, il s'est calmé. Donc, voilà, ça... comment dirais-je ? Chacun à son niveau. Et je veux dire, si on reconnaît ces besoins-là, je veux dire, si maintenant on commence à se préoccuper de ces personnes-là qui sont considérées malades, qui sont considérées handicapées, etc., et on voit bien que c'est un manque, eh bien, je suis désolée, mais ça existe aussi pour les personnes normales. Je veux dire, on a ce genre de besoin comme ça peut être tout à fait indépendant. Moi, une autre chose que j'ai peut-être pas bien dite dès le début, mais c'est que une autre chose qui pour moi a été très 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 vite claire, c'est la séparation. Qui n'est pas totale, mais qui existe entre l'amour et le sexe, pour s'exprimer rapidement. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est amoureux qu'on doit forcément avoir envie de faire l'amour, et c'est pas parce qu'on a envie de faire l'amour qu'on est amoureux. Je veux dire, vraiment, les deux choses sont la plupart du temps totalement séparées. Quand elles sont ensemble, c'est bizance, c'est génial, c'est merveilleux, mais ça n'arrive pas si souvent que ça. Je veux dire, c'est vraiment un privilège, une grande chance qu'on a de connaître ça. Donc, arrêtons de nous voiler la face, arrêtons de prétendre absolument avoir les deux en même temps. On peut très bien avoir l'un sans l'autre. Mais quand c'est le sexe sans l'amour, de grâce, acceptons-le. Que ce soit chez des handicapés, chez des non-handicapés, chez des femmes, chez des hommes. J'évoque pas les enfants, parce que c'est un tout autre domaine. Je ne vais pas évoquer ici la sexualité enfantine qui existe. Okay, mais je ne veux pas en parler. Je veux dire, ce n'est pas notre propos ici. D'accord. Mais pour dire que c'est quelque chose qui existe.
Tu expliques donc qu'il y a un travail de société. La société doit proposer un autre regard.
Absolument. Je veux dire, arrêter de voir ces choses-là comme quelque chose d'honteux qu'on devrait cacher.
Oui, la seule chose que l'on voit soi-disant libérée, c'est le sexe soi-disant libéré, mais qui est toujours payant. avec un tas d'accessoires, un tas d'accès payants. C'est la seule chose qui nous paraît un peu libérée, mais qui est une fausse libération, en fin de compte. Qui est tellement enfermée dans un carcan aussi, de consommation.
Complètement. D'ailleurs, ceux et celles qui se font de l'argent là-dessus ont bien raison. C'est un filon à exploiter. Je veux dire, si les gens estiment que payer est nécessaire pour ces choses-là, ils ont bien raison d'exploiter ce filon-là. Pourquoi pas ? C'est un marché comme un autre. Mais ça prouve bien que ça n'est... Je veux dire que l'activité sexuelle n'est ni liée à la reproduction, ni un instinct qui serait là que pour ça. C'est absolument pas ça. C'est quelque chose de très culturel, qui s'apprend, qui se développe tout à fait différemment selon les cultures. Ni non plus quelque chose qui doit être encadré. Je veux dire, si on a des envies comme ça, on rencontre quelqu'un à la rue et puis on a envie de faire quelque chose, ben très bien. On a envie de le faire seul, ben très bien. Du moment que ça ne fait qu'il n'y a pas de violence, qu'il n'y a pas d'oppression, qu'il n'y a pas d'exploitation. Mais là, pour revenir aux assistants sexuels, justement, j'ai lu dans l'article qu'il paraîtrait qu'il y a eu une réaction mauvaise de quelques féministes qui assimileraient ça à de la prostitution. Pas du tout. Je veux dire, justement, c'est au contraire le fait de reconnaître un besoin qui, dans ce cas-là, ne peut pas être exprimé de la même manière que chez des personnes douées d'un langage. C'est ça le problème. Et quand on est handicapé physique, c'est beaucoup plus simple. Je veux dire, là, ils ont le langage. Il suffit de le faire s'exprimer. Après, matériellement, ce sera plus ou moins difficile. Ça, c'est une autre histoire. Mais on trouve une solution à tout, quand on veut. Je veux dire, l'important, c'est la communication. C'est qu'on arrive à communiquer, à savoir ce qu'on désire et essayer. Et vraiment, ça ferait beaucoup de bien. Ça ferait beaucoup de bien. Il y a énormément de malheurs psychiques, physiques, qui viennent de ça, qui viennent de la jalousie, de l'enfermement. On a parlé des gens qui sont en dépression, il y a des gens qui sont en prison. Je veux dire, il y a plein de problèmes sociaux qui viennent de là.
Oui, c'est ça.
C'est vraiment... Oui. La solution ne serait pas si difficile que ça. Mais il faut vraiment rompre les carcans de pouvoir et de domination. C'est sûr que tant qu'on veut absolument posséder les femmes et les enfants, parce que je suis désolée, on en arrive là, hein. Ou même posséder les hommes, parce que c'est aussi une espèce de revanche. On se dit, bon, moi je suis la femme, je suis jalouse, je vais absolument enfermer mon mari. C'est assez... je n'aime pas le mot naturel, mais disons que c'est dans ce cas-ci relativement attendu, naturel, qu'on se venge, qu'on veuille exercer les mêmes systèmes de pouvoir, mais la solution n'est pas là. Voilà.
Un dernier petit mot. Chaque fois le dernier, puis on...
Mais oui, puis on rebond.
Un petit mot.
Oui, si tu dois terminer sur un message comme ça que tu as envie de dire.
Bah, comme j'ai dit, c'est oser, quoi, et aimer et vous sentirez mieux. Voilà.
Eh bien, je vous remercie. Voilà. Et un grand merci pour ce bel entretien sur cette belle thématique. À bientôt. Les musiques qui illustrent cette entrevue sont Ceste Ocho du groupe Suerte pour le générique début et fin, Echoes from KURU du groupe Royal Rhythm Composer. Ces groupes sont disponibles en téléchargement libre sur jamendo.com sous licence Creative Commons 2.5. Sur le site de polyamour.be, vous retrouverez toutes les précieuses informations relatives aux amours pluriels en Belgique, les dates de rencontre Polycafé, ainsi que la possibilité de réécoute de cette émission en la téléchargeant sur votre baladeur audio ou en l'écoutant directement sur le site. Cette émission est produite sous licence Creative Commons 2.5. Polyplaisir des Utopies, c'est aussi la joie d'émettre sur cette radio intelligente et curieuse qu'est Radio Campus. Je salue au passage Nathalie, Kika, Déborah, Nicolas, Fredux, ainsi que toutes les personnes nombreuses et dévouées qui donnent de leur temps afin de construire du contenu de qualité. Les horaires de l'émission changent, c'est donc à présent le deuxième mercredi du mois à 21h30 que l'on se retrouve, et en rediffusion le quatrième jeudi du mois à 16h sur 92.1 MHz à Bruxelles. Pour rappel, il y a un café poli ce mercredi 15 décembre à la Maison Arc-en-Ciel, rue du Marché au Charbon 42 à 19h. Plus d'informations sur le site polyamour.be. Je vous retrouve le temps d'une traversée dans quelques semaines sur l'autre rive, celle des imaginaires collectifs, celle des polyplaisirs, des utopies.